Le Club de Tamani.
Le Club de Tamani.
Votre émission de tous les vendredis soirs sur Studio Tamani.
La culture.
Le sport.
La musique.
Les infos.
L'émission qui vous informe, cultive et divertit.
Le Club de Tamani.
Tous les vendredis à 18h15.
Ils sont souvent des conteurs. À travers leur art, ils peuvent susciter des sentiments, inspirer, provoquer la réflexion et créer une sensation d'unité. Ils sont pour les chanteurs ce que l'eau est à la vie. Difficile de voir l'un sans l'autre. Lorsqu'ils accordent leur violon, en sort quelque chose de phénoménal. Vous l'avez certainement deviné déjà, fidèles auditeurs, dans votre émission Culture, le Club de Tamani ce soir, on a référé aux musiciens, ces artistes musiciens qui sont des acteurs clés du succès et de la réussite d'un chanteur. En dépit de ce rôle crucial qu'ils jouent, il y a tout de même des défis de taille auxquels les musiciens restent confrontés. Nous allons mettre l'accent sur les réalités du Mali. Les mérites du musicien sont-ils vraiment reconnus? L'artiste musicien au Mali a-t-il un plan de carrière? En 2025, un musicien qui ne maîtrise pas l'outil informatique peut-il être indépendant? Est-ce que ce métier leur permet de se prendre en charge? Nous aurons des éléments de réponse à toutes ces questions avec M. Djelimadi Sissoko, professeur de musique à l'Institut National des Arts de Bamako. Merci de nous suivre comme tous les vendredis. Au micro pour la présentation, Aïssata Diarra et Lala Diarra Touré. De l'autre côté de la baie vitrée, c'est Rundao pour la mise en onde. Bonsoir et bienvenue à tous. Aïcha, la plus belle, comment vas-tu?
Je vais bien, et de ton côté?
Oh, ça va, comme sur des roulettes.
T'es royalement bien habillée aujourd'hui.
Ah là là, mais t'es pas mal aussi.
Alors Lala, nous allons commencer déjà avec le show.
Oui, et déjà pour ouvrir le bal, nous allons partir avec Feu Ramata Djakité dans le titre Dounia.
Sala, diablo, no fue lo que te hice, sala, diablo.
C'était la Ramata Diakité dans le titre emblématique Dunia Lala. Elle nous a malheureusement quittés en 2009.
Et dans la chanson Aïcha, on a beaucoup de conseils. Elle sensibilise notamment sur le fait que cette vie, elle est vraiment éphémère et un beau jour, on est appelé à la quitter. Donc, pendant qu'on est là, il faut communier avec les gens, il faut tisser de bonnes relations.
Que son âme repose en paix.
Amen. Et Aïcha, on l'a dit, les artistes continuent à vivre à travers leurs œuvres. Un artiste ne meurt jamais. Et nous allons à présent permettre à Moussa Malé de faire son entrée pour la revue de la presse.
La revue de la presse.
Moussa Malé, bonsoir et bienvenue.
Bonsoir Aïssata Diarra, bonsoir Lala Diarra Touré, mes charmantes dames. Toujours élégantes.
Merci.
Nous, ça va, alhamdoulilah, et apparemment toi aussi.
Ça va.
Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'actualité cette semaine?
À la une des journaux cette semaine, des partis politiques exigent le retour à l'ordre constitutionnel au Mali. En effet, dans une déclaration rendue publique ce mercredi 22 janvier 2025, les partis signataires de la déclaration commune du 31 mars 2024 ont demandé la fin de la période transitoire avec l'organisation des élections au Mali. C'est une coalition qui regroupe une douzaine de partis et regroupements politiques. Le quotidien privé L'Indépendant annonce des partis signataires engagent les autorités à fixer un chronogramme détaillé et précis vers les élections avant la fin du premier trimestre 2025. Dans les colonnes de ce quotidien privé, cette coalition des partis politiques déclare avoir suivi le discours du président de la transition le 31 décembre dernier. Les signataires de la déclaration du 31 mars poursuivent L'Indépendant, expriment leur étonnement quant à l'absence dans ce discours toute référence à l'organisation des élections. Info Matin renchérit. Ces partis regrettent aussi les réformes engagées de manière unilatérale non concertée, bien qu'ayant accueilli favorablement l'inscription au budget d'État des ressources destinées à couvrir les élections 2025. Ces formations politiques sont frustrées et préoccupées par l'incertitude autour de la tenue de l'élection présidentielle, rapporte Le Soir de Bamako. Ces partis politiques signataires rappellent que la date de retour à l'ordre constitutionnel avait été unilatéralement fixé par les autorités après un premier report de 2022, a écrit Le Républicain. Selon cet autre quotidien privé, ces politiques affirment que ces mêmes autorités, en septembre 2023, ont reporté à nouveau cette échéance, légèrement sans toutefois fixer une nouvelle date. Ces formations politiques déplorent que les populations maliennes sont maintenues dans une situation d'incertitude depuis 15 mois après cette décision, a ajouté Le Républicain. L'hebdomadaire Le Devoir titre « Des partis demandent aux autorités un retour à l'ordre constitutionnel ». Dans sa parution de ce 23 janvier, le journal souligne que les partis ont sollicité également la libération des prisonniers pour délit d'opinion, la fin des arrestations arbitraires et disparitions forcées et le retour des exilés politiques. À en croire le site Mali Actu, ces partis politiques insistent sur le fait que le Mali ne peut sortir de la crise actuelle sans un retour immédiat à l'ordre constitutionnel. Pour cet autre site d'information MaliWeb, ces acteurs politiques exhortent les autorités à organiser dans les meilleurs délais un cadre de concertation entre le gouvernement et la classe politique pour débattre la question du retour à l'ordre constitutionnel. Et c'est tout pour cette page de la revue de la presse. Aïssata Diarra.
Merci Moussa Malé et à tout à l'heure pour la version en Bamanankan.
Accueillons à présent notre Miss Hightech.
Les coulisses de l'info.
Fatmata Kodjo, bonsoir.
Bonsoir Aïcha, bonsoir Lala, également à tous ceux qui nous écoutent.
Ah là là, Miss Hightech, mais les jeunes, tu vas bien autant. Ça va, tu vas bien?
Ça va.
La semaine n'a pas été trop dure pour toi, j'espère.
Non, ça va.
D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on va apprendre avec toi ce soir?
Eh bien Lala, nous allons aborder ce soir un sujet assez important pour les journalistes et pour notre public.
Pas mal comme sujet, c'est lequel déjà?
Il s'agit de l'analyse critique de l'information.
Je sens qu'on va se rafraîchir la mémoire ce soir.
Oui,
absolument. Et pour ce faire, nous avons approché Aramata Diaouré, journaliste et consultante, qui nous explique la notion de long en large. Suivons.
Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est qu'on est inondé par tout un tas de messages dans tous les sens. Ça peut, principalement d'ailleurs sur les réseaux sociaux, mais ça peut aussi passer par voie de mail, ça peut passer par d'une autre manière. Et donc, on a malheureusement tendance, surtout dans notre société de civilisation orale, à prendre pour véridique tout ce qui est dit, dès lors que ça passe par un canal de diffusion qui est moderne. Bon. Et comme il y a beaucoup de gens qui s'arrogent le titre de journaliste alors qu'ils ne le sont pas, on se retrouve avec des choses qui des fois sont... qui ne résiste pas à l'analyse. C'est pour ça qu'il faut analyser de manière critique.
Pourquoi est-il important de développer des compétences en analyse critique aujourd'hui?
Je vous prends un exemple. Il n'y a pas longtemps, j'ai un ami qui m'a dit « Attends, je te forward une vidéo. » Il dit « Ah, il y a le chèque de Nyoro qui est encore en colère contre les militaires. » Cette personne a un niveau intellectuel très, très élevé. J'ai regardé la vidéo. La première chose que j'ai vue sur l'image, c'est la date. C'est quelque chose qui date du 21 mai 2021. Il y a l'information qui est là. En bas, il y a ça. Il y a la personne qui a posté, il y a une date et il y a un nom. Mais la personne n'a fait qu'écouter et regarder l'image, mais n'a pas juste regardé ce qui lui était proposé comme information supplémentaire. Or, c'est cette information supplémentaire qui va vous permettre de donner du crédit ou pas à ce qu'on va vous raconter. Pour un deuxième exemple, on écrit soi-disant une lettre ou on fait soi-disant un communiqué que l'on publie, que l'on diffuse sur les réseaux sociaux. Souvent, vous allez trouver que c'est bourré de fautes. Alors que la personne normalement qui le fait doit relire et tout ça. Ensuite, des fois, et même des fois, la signature qui n'y est pas, ou le nom qui est mal écrit. Des fois, ce sont des logos qu'on appose qui ne sont plus les logos qui sont là actuellement, des entêtes qui ne sont plus là. Mais les gens ne vont pas, même ceux qui savent lire et écrire, ne pensent pas à vérifier ça. Alors qu'en fait, c'est la première des choses qu'on devrait faire pour donner un petit peu du crédit, donner de la valeur à ce qu'on vend comme une information. Avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, on peut faire ce qu'on veut, y compris prendre votre voix et tout ce que vous voulez.
Aujourd'hui, quels sont les dangers que la mauvaise interprétation d'une information peut comporter?
Malheureusement, et c'est pour ça que quand on parle d'éducation aux médias, il faudrait que les gens comprennent. Il y a au Mali des gens qui se sont battus pour instaurer cette éducation aux médias depuis longtemps, qui sont des doyens de des médias. Hein? C'est Maman Amézissé et Sadou Yattara, qui sont des grands spécialistes de cela, qui se battent depuis des années pour que quelque part, même au niveau de l'enseignement, même au niveau de la formation des journalistes, on fasse cette éducation aux médias. Disons que je ne dis pas que ce soit seulement les journalistes qui peuvent donner une vérité. Je, par exemple, il y a dans mon village une inondation, quelqu'un du village filme ça et met ça sur WhatsApp. Ah, aujourd'hui l'eau est en train de monter, regardez. C'est de l'information, et c'est de l'information locale, ce qui est assez intéressant puisqu'on n'a pas assez d'informations locales. Vous êtes bien placé pour le savoir, si vous travaillez beaucoup sur l'information locale parce que c'est difficile que ça remonte jusqu'à maintenant.
Les professionnels des médias qui font la course au scoop ne devraient-ils pas revenir à l'essentiel?
Le problème qui se pose, c'est que d'un autre côté, vous avez des intérêts qui ont investi les réseaux sociaux justement pour faire passer, il faut appeler les choses par leur nom, de la propagande en leur faveur. Et malheureusement, même des journalistes bien formés, avec l'appât du gain, avec certaines rétributions, se permettent de ne pas vérifier ces informations et de balancer ça. Parce qu'il faut du monde autour d'eux. C'est pas des fois obligatoirement pour faire le buzz ou pour avoir le scoop. Mais moi, je suis par exemple assez outré que des journalistes, que des gens en tout cas qui se prétendent réellement journalistes, appellent leurs médias avec le mot buzz. Buzz, ça veut dire qu'on fait quelque chose pour faire du bruit. Ce qui, pour moi, ne va pas dans le sens de faire du journalisme. Malheureusement, nous avons des bruits galeuses parmi nous. Et ensuite, le fait, justement, qu'il n'y ait pas d'éducation aux médias, qu'il n'y ait pas d'éducation à un petit peu la recherche de la véracité de l'information. Parce que ça pourrait très bien se faire au niveau des langues locales. On peut expliquer aux gens, il y a telle chose, telle chose, telle chose. Faites attention. C'est pas compliqué à faire. Mais le problème qu'il n'y ait pas ça fait que ces gens ont un vaste auditoire. Et en fait, se crédibilisent ou se font crédibiliser parce qu'il y a du nombre.
L'analyse critique de l'information a-t-elle des avantages?
Déjà, il faudrait que l'auditoire, comme on dit, puisse avoir les moyens de vérifier, ce qui n'est pas le cas partout. C'est quand même une contrainte. Mais moi, je dis que la première des choses, c'est qu'il faut apprendre aux gens, il faut faire comprendre aux gens que tout ce qui est dit, tout ce qui leur est montré, n'est pas obligatoirement vrai. Il faut aussi faire comprendre aux gens qu'il y a des gens qui ont intérêt, d'ailleurs, à leur faire prendre du faux pour du vrai. Ça sert leurs intérêts. Donc, vous voyez que tout le monde s'y met. Ceux qui diffusent des fausses informations, ceux qui font de la propagande, ceux qui veulent seulement nuire à quelqu'un, ceux qui veulent vendre quelque chose pour leur propre profit. Et tout ça, il faudrait arriver à faire comprendre aux gens qu'il y a des fois des méthodes toutes simples pour vérifier, ce qui n'est pas obligatoirement, comme je dis, à la portée de tout le monde. Mais il faut surtout aussi faire comprendre qu'aujourd'hui, avec les outils numériques modernes, on peut faire dire n'importe quoi et son contraire à n'importe qui. Et cette éducation aux médias-là, même au niveau des journalistes, il faudrait que les journalistes aussi comprennent que dans leur cursus, on leur fasse comprendre. Attention, dès lors que c'est parti sur les réseaux, si tu n'as pas bien fait tes regroupements, si tu n'as pas bien vérifié avant de diffuser, c'est parti. Parce que ça aussi, il faudrait faire comprendre aux gens que la loi sur la cybercriminalité dit quoi. Tu reçois du fake, tu le diffuses. Tu es complice de celui qui a écrit le fake. C'est aussi, ça demande aussi, de la part des autorités, de faire comprendre aux gens et d'expliquer aux gens ce qu'il y a dans les textes de loi. À quoi est-ce que l'on peut s'attendre si on a telle pratique, par exemple, sur les réseaux sociaux.
Et voilà, j'espère que les auditeurs ont compris avec nous.
Oui, Kodjo, je l'espère aussi. En tout cas, nous avons maintenant les idées fraîches quant à tout ce qui concerne l'analyse critique. Et il y a une phrase que j'ai retenue, c'est que tout ce qui brille n'est pas de l'or.
Effectivement.
Voilà.
Maintenant, il est temps d'accueillir l'invité culture.
L'invité culture.
Alors ce soir, nous parlons de ceux-là qui nous composent des mélodies captivantes, qui nous transportent souvent dans le temps et dans l'espace. Certains l'ont hérité de leurs parents, d'autres l'ont tout simplement appris, comme tout autre métier, et ont appris à le faire, mais de la plus belle manière.
La pratique demande surtout amour et dévotion.
Il s'agit bien sûr des artistes musiciens. Et pour nous brosser les points clés de ce métier, nous recevons M. Djelimadi Sissoko, professeur de musique à l'Institut National des Arts. Bonsoir M. Sissoko et merci d'avoir répondu à notre sollicitation.
Merci. Alors dites-nous M. Sissoko, c'est qui un musicien ?
Ah, un musicien.
Oui.
C'est simple et compliqué en même temps. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se décrètent musiciens. Bon, mais être musicien... Et pas comme on dit, la musique c'est l'art des sons. Donc c'est de pouvoir combiner les sons, n'importe quel son. Et là, on a vu de la musique, on fait de la musique avec de l'eau, avec du feu, ainsi de suite. Donc là, c'est de faire ressortir le son et de combiner les sons. À travers ça, bon, il y a les instruments qui sont là, les instruments de musique, qui peuvent être des instruments de percussion, des instruments et de, les vents, les instruments à cordes, ainsi de suite. Donc, celui qui maîtrise ses instruments de musique est un musicien. Et même la voix, c'est un instrument de musique. Et les mains, le pied, tout ça, on peut faire de la musique avec tout ça. Tout ce qu'on peut imaginer, généralement, on peut faire de la musique avec tous ces gens-là. Donc, quelqu'un qui peut vraiment produire un son bien harmonisé, bien ordonné, bien coordonné, et ça peut être de la musique.
Alors, vous l'avez dit, être un musicien, c'est simple et à la fois compliqué. Mais selon vous, quelle relation un musicien doit avoir avec l'artiste-chanteur qui l'accompagne ?
Bon, l'artiste-chanteur, quand vous dites, pour moi, ils sont tous des musiciens. Par exemple, chacun a son instrument de musique. Comme je disais, par exemple, moi, je joue la chorale, l'autre joue la guitare, l'autre joue... Le chanteur, son instrument de musique, c'est sa voix.
Voilà.
Bon, il n'est pas dit forcément que dans un groupe, que c'est le chanteur qui est le leader. Non, c'est pas ça. Bon, généralement, les gens voient celui qui chante, voilà, au devant de la scène, mais vraiment il y a une logistique très lourde devant la personne. Donc, ou derrière lui, tous ces gens mettent leurs mains dans la pâte. Donc, ça dépend. Voilà, le chef d'orchestre, ça peut être n'importe qui. Quand je dis n'importe qui, celui qui connaît, qui maîtrise, qui peut corriger les musiques tout à fait, généralement.
Donc, la voix, elle est considérée comme un instrument.
Comme un instrument.
Merci.
Alors, M. Sissoko, quelles sont donc les qualités qu'il faut avoir ?
C'est-à-dire, les qualités, qui doit avoir ces qualités ?
Des musiciens.
Des musiciens, oui.
Les qualités, c'est d'abord être humble, quoi. La plupart des musiciens ont la grosse tête. Mm. Voilà, j'en fais partie. Donc, mais il faut être très humble. Il faut écouter. Il faut savoir accepter l'autre. Mm-hmm. Et quand tu fais la musique, il faut écouter les autres musiciens. Malheureusement, il y a certains musiciens, quand ils sont sur scène, ils piétinent tous les autres musiciens. Et voilà, il veut être vraiment le point focal de tout le monde. Donc là, du coup, ça pose problème. Parce que un groupe de musique, c'est une machine. Mm-hmm. Et une machine, généralement, il faut que tout roule bien pour que la machine puisse se déplacer.
Okay.
Et s'il y a quelqu'un qui fait quelque chose qui est un peu dépassé, donc ça peut poser des problèmes.
Ça peut jouer sur la qualité.
Voilà, donc il faut être humble. et il faut avoir une qualité d'écoute et puis aussi il faut accepter les critiques et écouter surtout les autres parce qu'il y a beaucoup quand tu généralement il peut proposer quelque chose de meilleur, chacun a son petite idée, donc mais quand on s'écoute généralement on peut faire sortir et ressortir quelque chose de potable. Donc le plus important c'est d'être humble et être à l'écoute.
Alors nous sommes en train d'écouter en sourdine un instrument de chez nous, la kora.
Oui.
Je crois ici c'est Toumani Diabaté en duo avec Ali Farka Touré. On sait que ce sont des artistes vraiment qui ont porté vraiment haut les couleurs nationales, les couleurs du Mali. Et partout ils sont passés, le nom du Mali est resté. Selon vous, est-ce qu'il n'y a pas aussi l'aspect don naturel? Est-ce qu'il n'y a pas des prédispositions en fait?
Bon, et d'abord, je rends hommage à tous ces grands, à ces deux grands musiciens, Ali Farka que j'ai connu et Toumani aussi que j'ai vraiment, c'est un grand frère à moi parce que j'ai beaucoup travaillé avec lui et c'est le père Sidiki qui nous ont tous éduqués ensemble. Les familles sont contiguës, donc voilà, il y a beaucoup qui m'appellent Diabaté. Vraiment, il peut avoir la prédisposition, elle est très importante aussi, mais c'est surtout le travail. Si la prédisposition représente même 10%, c'est bon quoi. Avec 90% de travail, tu peux bouger quoi. Il y a beaucoup vraiment qui sont vraiment prédisposés, qui sont vraiment des génies, mais sont très brouillons parce qu'ils ne travaillent pas.
Selon où est-ce que vous enseignez?
Et c'est la kora.
Mais il fallait nous amener une kora. Il fallait nous amener une kora, professeur.
Oui. C'est la kora. Il y a beaucoup de ces jeunes qui sont passés avec moi, et même Sidiki Diabaté, Bala, et voilà, et autres, et Wasakuyate,
ouais.
Tous les jeunes qui sont passés à l'INA, il y a à peu près, ça fait, qui ont joué à la kora il y a à peu près 20 ans, et sont passés par moi.
Ouais.
Parce que je suis là-bas depuis. Voilà, depuis
mais 2000. La kora ne cache-t-elle pas un mystère par hasard? Parce que le son est tellement captivant.
Merci. Ça, c'est la bonne question.
Voilà.
Bon, c'est un instrument quand même que jusqu'à présent, même moi, je suis élève, j'apprends jusqu'à présent, même moi, j'apprends. Et aucun, y a aucun joueur de kora qui peut dire, te dire que lui, il a... notre papa, le vieux Sidiki Diabaté, paix à son nom, disait que la kora, c'est comme de la, un fleuve au niveau du désert. Donc là, du coup, ça n'a pas de fin. Donc, quand tu as besoin, à chaque fois, il faut venir prendre quelque chose puis aller l'utiliser. Mais si tu veux prendre tout d'un seul coup, c'est sûr que tu ne peux plus bouger avec parce que voilà, c'est trop lourd. Donc, généralement, on a besoin à chaque fois de se ressourcer, de revoir les choses, d'évoluer. Mais heureusement, c'est un instrument quand même que je fabrique aussi. Là, du coup, c'est parmi les instruments traditionnels, je pense que c'est l'instrument qui a beaucoup... qui n'est pas menacé. Parce que le problème qui se pose maintenant, il y a beaucoup de nos instruments qui ont disparu et il y en a qui sont menacés de disparition.
D'accord. Merci déjà à notre invité, M. Sissoko. Alors, pour ces premières réponses, nous allons juste marquer un tampon musical et nous allons revenir pour continuer la série de questions-réponses.
Oui.
Mali, sukolam
Oui, Lala, nous allons continuer avec notre série de questions-réponses avec notre invité.
Oui, Aïcha, et nous disons juste merci à nos fidèles auditeurs, ceux-là même qui ne manquent jamais le programme de Studio Tamali. Sachez que vous écoutez l'émission Culture, le club de Tamali, et nous avons comme invité ce soir M. Djeli Madi Sissoko, professeur de musique à l'INA.
Alors, professeur, quels sont les défis majeurs auxquels le musicien est confronté dans son art ?
Bon, les défis sont vraiment énormes parce que d'abord, au Mali ici, les lieux de production ne sont pas vraiment bien équipés, bien adaptés. Les genres de musique que nous faisons vraiment, et voilà, il y a certains genres de musique qui n'ont pas de lieux appropriés pour se produire. Okay. Ça, c'est un problème. Le deuxième problème, c'est la structuration des groupes. Les groupes ne sont pas structurés sur une base juridique très claire au départ. Donc, il fait vraiment qu'on n'a pas de groupes qui vivent très longtemps au Mali. Parce que, dès le départ, voilà.
Mais qu'est-ce qui fait ça? C'est quelqu'un qui croit que voilà, c'est lui qui est le catalyseur et qui propulse les choses.
C'est ça. Depuis le départ, depuis le début, il n'y a pas une base juridique claire lors de la création, de la constitution du groupe. Donc, à un moment donné, chacun se croit très fort, c'est avec des grosses têtes. C'est un peu compliqué. Donc là, du coup, voilà, c'est la séparation quoi, qui n'est pas bonne du tout pour notre musique parce que ça dénature chaque fois. Par exemple, le groupe qui a beaucoup résisté au Mali, c'est le groupe de Habib, hein, Bamada. Mm-hmm. Bon, même maintenant, à un moment donné aussi, il y avait eu des problèmes de ce genre. Voilà, maintenant, il a un peu changé le système, ainsi de suite. Bon, mais le problème auquel nous sommes vraiment confrontés, c'est ce problème-là quoi. Là aussi, il n'y a pas aussi une répartition très claire de gains, c'est-à-dire après le concert, qu'est-ce que les instrumentistes ils doivent payer, comment et voilà, à hauteur de quoi, quel pourcentage.
Vu qu'on parle des difficultés que vous rencontrez, à part jouer un instrument, est-ce que le musicien peut profiter autrement de son art?
Oui, par exemple, les publicités.
Voilà,
il faut un peu de.
Mais est-ce que vous avez un plan de carrière? Par exemple, ceux qui ont fait un certain temps dans la pratique vont peut-être se pencher vers l'enseignement. Mais à part ces deux volets, est-ce que il y a d'autres champs dans lesquels généralement les musiciens au Mali les musiciens évoluent?
Bon, généralement parce que les musiciens c'est des privés aussi quoi. Mm-hmm. Donc chacun est libre de vraiment de se projeter, de faire une projection dans l'avenir. Mais si il y a ce problème aussi qui est là parce qu'il y a beaucoup qui ne sait pas prévoir. Il y a des artistes qui ont bien fonctionné à un moment donné, mais quand ils sont devenus vieux, il y a tout un problème. Même quand ils sont malades, tu trouves que voilà cet artiste est malade et voilà on fait des appels de dons pour vraiment le soigner. Tu vois ce que c'est? Parce que tout simplement, il n'y a pas de structure d'assurance pour les artistes. Bon, ça commence à venir, mais même les artistes ne connaissent pas beaucoup et n'ont pas très confiance parce que c'est des structures qui sont un peu compliquées, un peu lourdes vraiment à gérer. Donc là, moi, je pense qu'il doit y avoir un fonds d'urgence pour les artistes. C'est-à-dire un fonds d'urgence de création et puis un fonds d'urgence de maladie. Voilà, si on a ces différents fonds, peut-être que ça peut nous aider vraiment.
Mais cette année, c'est votre année. Oui. Est-ce qu'au cours des états généraux qui se sont déroulés récemment, vous avez eu à évoquer ces aspects? Est-ce que vous êtes confiant que dans un avenir proche, il y aura au moins un début de solution à ces problèmes que vous venez d'évoquer?
Heureusement, j'ai participé aux états généraux. J'étais même le président de la commission de la musique urbaine. Au départ, c'était la musique tout court. À un moment donné, on a jugé nécessaire de créer une structure qui s'occupe de la musique urbaine. Parce que ce que les gens ne savent pas, la musique urbaine, c'est les musiques qui sont nées dans les villes, qui sont venues chez nous ici vers des années 80, quelque chose comme ça. Il y avait les rap, hip-hop, graffiti, slam. Hein. Au niveau, il y avait des problèmes parce qu'ils pensaient qu'à un moment donné, certaines personnes combattaient, entre guillemets, un peu parce qu'ils disent que c'est la musique qui dénature la culture malienne et c'est une musique importée, tout. Donc tu vois, c'était un peu compliqué. Or, la musique, c'est la musique. Et ce que moi j'ai dit au départ, Chacun doit s'assumer. Tu es dans les instruments traditionnels, il faut faire de telle sorte que tu développes, tu innoves, voilà, tu protèges ça. Les nouvelles créations telles que la musique urbaine, il faut l'accepter, ça fait partie de notre...
Donc ça veut dire qu'en 2025, un artiste musicien, il doit maîtriser les instruments modernes.
Non.
Pas forcément.
Voilà, mais chacun... c'est un peu différent de tout ça. Mais chacun, que chacun excelle dans son domaine, c'est très important.
D'accord.
Parce que la musique, elle est très vaste. Moi, généralement, je me dis musicien, je me dis même professeur de musique, mais il y a certains instruments que je ne sais pas jouer. Voilà, donc là, je suis limité, chacun a son truc. Je connais la musique en général, mais peut-être c'est un instrument que je maîtrise le mieux.
Vous êtes spécialiste, d'accord.
Alors, M. Sissoko, est-ce qu'on peut considérer un musicien comme un thérapeute?
Bien sûr, il y a la musique thérapeutique.
On dit que ça adoucit les mœurs.
Bien sûr. Par exemple, je ne dirais pas le nom, c'est une grande personnalité. À chaque fois qu'il est très stressé, il est fainéant, il dit, Djeli m'a dit, viens chez moi là, je suis fatigué aujourd'hui, quoi. Ça va pas, viens jouer de la chorale. Au moment où j'arrive, je trouve qu'il est déprimé, et non, ça va pas du tout. Mais quelques instants plus tard, tu vois, il se retrouve, voilà, il est... Moi, je suis même étonné. Mais à chaque fois que je finis de jouer, vraiment, il est à l'aise, quoi. Donc, vous voyez, la musique soigne.
Est-ce qu'il y a des recherches qui sont orientées vers cet aspect-là?
La musique thérapeutique, même à la psychiatrie, là, à Pongé.
OK.
Oui, il y a même des... On avait même créé, à l'époque, des groupes qui vont jouer la musique à ceux qui ont des problèmes, c'est-à-dire les fous, entre guillemets, je ne sais pas quelle est la
famille.
Voilà, donc on formait des groupes et on les faisait danser et même parfois on les faisait jouer avec les musiciens. Donc là, il y avait la musique et le théâtre. Mmh. Donc voilà, généralement, c'était bien accueilli aussi au niveau de la psychiatrie à Pongé.
Décidément, on ne pourra pas épuiser tout le sujet ce soir, mais on espère bien, très prochainement, on va vous recevoir à nouveau. Mmh. Et Aïcha, on va lui dire merci déjà. Mais il reste avec nous parce que l'émission n'est pas finie. Vous faites du sport?
Oui.
Quelle discipline?
Un peu d'aïkido.
Ça, c'est pour les spécialistes. Voilà. Et justement, le spécialiste est là avec nous dans ce studio. Et c'est donc Khalifa Goïta. Khalifa, bonsoir.
Bonsoir Lala, bonsoir à tout le monde.
Notre athlète de jour et de nuit. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir concernant l'actualité sportive cette semaine?
Un plaisir de vous retrouver au menu, le démarrage du championnat national féminin saison 2024-2025. Cette semaine, la 9e journée du championnat masculin a pris fin également. Ce jeudi, on parlera aussi du cyclisme.
Alors Khalifa, la première division du championnat féminin saison 2024-2025 a officiellement repris le mercredi dernier.
Ceci marque un début prometteur pour la saison 2024-2025. Les rencontres jouées ont offert du spectacle sur les pelouses à travers le pays avec un bilan offensif impressionnant. Le savez-vous, ce sont 23 buts qui ont été inscrits. Cela témoigne la combativité des équipes engagées. Ainsi, l'AS Mandé a battu Soudou Baba sur le score de 3-0. Amazon de la commune 5 l'a emporté devant l'AS Police 2-0. En déplacement à Kaï, les Super Lions se sont imposés 6-1 face aux Tigresses de Kaï. À Sikasso, l'AS Momo a gagné contre l'AS Entente 4-0. Deux rencontres ont été jouées ce jeudi. Isfas a écrasé Teria AC 6-0. ASRAL aussi a gagné contre Santoro 1-0.
Et Khalifa, les dernières rencontres de la 9e journée du championnat en hommes s'y sont jouées hier jeudi. Les résultats complets sont avec toi.
L'ASRAL de Bamako, US Bougouba et US Bougouni se sont imposés sur le score d'un 1-0 respectivement contre l'ASCO 11 Créateurs et l'USFAS. C'était le mardi dernier. Le lendemain, l'AS Bakaridja a battu les Étoiles du Mandé 2-0. Score à l'avantage de Binga FC 1-0 face à Afrique Football Elite. C'est jeudi, le stade malien de Bamako s'est incliné devant FC Diarra 2-1. Il faut noter que c'est la première victoire du promis FC Diarra. Le Djoliba AC a été accroché par l'AS Police dans le deuxième match de la soirée. Après 9 journées, US Bougouba est provisoirement en tête avec 17 points, 14 points pour Isfas et en bas du tableau, on retrouve le stade malien de Bamako avec 4 points et 6 matchs en retard. Par ailleurs, le tirage au sort de la CAN Maroc 2025 aura lieu le lundi 25 janvier à Rabat. Au Maroc, à 18h, c'est ce qu'a annoncé la Confédération africaine de football. En basketball, la Supercoupe du Mali se joue en ce moment dans la salle Salamatou Maïga. À l'affiche, stade malien Djoliba AC chez les dames, stade malien AS Police chez les messieurs.
Changeons de discipline cette fois-ci pour parler du skilisme. Le Grand Prix skiliste des Benkadi aura lieu le samedi 1er février 2025 à Ouéto.
Oui, c'est dans le cadre des activités socio-culturelles de la jeunesse de la commune de Benkadi dans la région de Sikasso. Ce rendez-vous de cyclisme sous la houlette de la Ligue régionale des cyclismes de Sikasso drainera à coup sûr les populations. Les cyclistes parcouriront 100 km lors de cette première édition. La compétition est ouverte à tous les cyclistes du Mali. Les populations de la commune de Benkadi et environ sont invitées à sortir pour assister à ces grandes retrouvailles de cyclisme. C'est tout pour aujourd'hui.
Merci beaucoup, Khalifa. Nous te disons au revoir. Nous allons te souhaiter bon week-end. Hein. On a une dédicace pour toi. Tu aimes la musique du Nord ou pas?
Oui, bien sûr.
Voilà, je savais que ça allait te plaire à coup sûr. Alors, nous avons choisi Khaira Harbi qui nous chante Tché Babi Mali.
Tché Babi Mali, libéré que tu gagnes, ou maïa gagnes, hagala gagnes, hagala
Harbi dans le titre Tché Babi Mali, elle est malheureusement décédée en 2018. Lala.
Paix à leur âme, Aïcha. Et à présent, nous allons retrouver Moussa Malé Sissoko pour la revue de la presse en langue nationale. Bon malencan.
La revue de la presse.
Moussa Malé, et nous là?
Wati preperlatige kala flu kanga ke wati mina sani marsikalo tle bisabani kelente kuna foni so inga fola ni politiki jekulu nungo kuye general d'armée Assimi Goïta la main aye dantikeli minke jamana de unye décembre kalo tle bisabani kelente mené ko frontière teme fanga nyema kani la selin konnana ko kala flu ko kuma ere kuntaka ni la selin konnana info matin ale fene ba ira ka foko yele madodona sharia kiseula mali konnana kasoro uma politiki jekulu ɲininga gouvernement o dɔrɔn de jɛra ni nin wale nunu ye k'a yɛlɛma don mali sariya dɔw la ko hali n'a sɔrɔ u kun y'a yira k'a fɔ ko musaka be bila kɛrɛfɛ n'o be kɛ ka kalafiliw labɛn jamana be ka mara an be ka taga mɛn kalafiliw waati o pereperelatigɛlen tɛ i n'a fɔ le soir de bamako o b'a fɔ an ɲɛna cogo min na min ye le républicain ye kunnafoni gafe n b'a yira k'a fɔ ko ni politiki jɛkulu nunu kɔ ko gouvɛrɛnɛman yɛrɛ de ye kalafiliw bɔ a dɔgɔkɔrɔ san 2022 waati la ko tɛmɛlen kɔfɛ fɛnɛ septanburu kalo la san 2023 fɛnɛ u y'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ fɔɔ ka se bila kalo 15 kɔnɔna na jamanadenw u t'a dɔn kalafiliw bena kɛ waati min na ka furancɛ la tɛmɛ fanga ye ban républicain ka fɔ la le devoir ale fɛnɛ ye kunnafoniso ye min bɛ bɔ dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ kelen ka janvier kalo tile 23 boli la ko nin politiki jɛkulu nunu i b'a ɲini gouvɛrɛnɛman fɛ fɛnɛ ko ma minnu datuguna kaso la ka kɛɲɛ ni u hakilinaw ye ko k'olu labila ani ma minnu fɛnɛ minɛna ani k'u bali u latunu k'olu bɛɛ lajɛlen ka segi ka na fɔɔ ka taa se ma minnu ye jamana bila ni ka taa sigi jamana wɛrɛ la ka kɛɲɛ ni u ka politiki hakilinaw ye gouvɛrɛnɛman ka fɛɛrɛ kɛ olu bɛɛ lajɛlen ka segi min ye kunnafonidiso ye min bɛ bololo ka mali atu ye ale ko ko ni politiki jɛkulu nunu kɔ ko foyi tɛ se k'a to jamana ye ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔna na ni kalafiliw ma kɛ an ka segi bɛɛ jɛ fanga kɔnɔna na ko fɛɛrɛ dɔrɔn de be se k'an bɔ gɛlɛya kɔnɔna na mali kɔnɔ mali web ale fɛnɛ ye kunnafoni diso ye bololo kan a ko ko ni politiki jɛkulu nunu b'a ɲini gouvɛrɛnɛman fɛ k'u ka fɛɛrɛ tigɛ walasa kɛnɛ min be sigi politiki jɛkulu ani gouvɛrɛnɛman ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye kadre de konsɛrtasiɔn ye ko k'o lakuraya ko o kɔnɔna na fɛnɛ kuma ka kɛ fɛɛrɛ minnu be se ka tigɛ an ka segi bɛɛ jɛ fanga kɔnɔna na kunnafoni disow y'o de fɔ nin dɔgɔkun kɔnɔna na lala jara
ah musa male ni ce saloni jara n ye
bamusa ni ce
an be k'an bɛda ɲɔgɔn ye dɔgɔkun wɛrɛ
ni
ala ma an ka jɔnya jɔna nous voilà pratiquement à la fin de cette émission mais déjà une dernière question pour monsieur Sissoko pour ses propos conclusifs. Quelle serait la vie d'un artiste chanteur sans un autre artiste qui joue de l'instrument?
On peut faire une carrière solo avec la voix seulement. Mm-hmm. Voilà. Quand tu décides d'élargir l'horizon, tu peux faire appel à d'autres musiciens. Mm-hmm. Mais en tant que professeur de musique, je sais quand même qu'on peut faire carrière avec la voix seulement, sans aucun instrument. On peut le faire. Et ça peut passer aussi. Comme par exemple, je peux faire carrière, on me demande de faire un truc de kora seulement. Mm-hmm. À la kora, il n'y a aucun autre instrument qui est dedans. Et puis aussi, il y a des trucs des percussions, le djembe seulement qui peut bien donner. Il y a beaucoup, les instruments peuvent évoluer individuellement quoi. Mais voilà, parfois aussi voilà, quand on fait la fusion, des regrouper, c'est encore plus beau aussi quoi.
On a de belles choses.
Voilà, c'est
quel
ça.
Quel conseil
voilà.
Vous pouvez donner aussi à la jeune génération d'artistes musiciens?
La jeune génération, c'est vraiment d'être humble, c'est-à-dire de descendre un peu. Ils sont très très level là, ils l'ont mis très à très haut. Donc ils essaient de descendre un tout petit peu, hein, de voilà, et d'être humble et d'être à l'écoute. D'accepter aussi les critiques.
Et voilà, c'est sur ces mots que s'achève le Club de Tamani de ce vendredi. Nous vous rappelons, chers auditeurs, que nous étions avec M. Djelimadi Sissoko, professeur de musique à l'Institut National des Arts, et nous avons parlé de la vie du musicien de façon générale. Merci pour votre aimable attention. Vous pouvez retrouver cette émission sur toutes nos plateformes digitales. Sekou Gadigo a coordonné et à la présentation, il y avait Aïssata Diarra et Lala Diarra Touré. Serundao était à la technique. Retenez ceci, l'arrogance empoisonne le succès. Restons humbles, l'humilité est le sol sur lequel pousse le succès. Bon week-end à tous.